Je vous invite à ouvrir la parole de notre Seigneur et à lire dans l'évangile de Luc, au chapitre 10, à partir du verset 25. L'évangile de Luc, chapitre 10, à partir du verset 25. Et voici qu'un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour le mettre à l'épreuve, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi ? Que l'es-tu ? Comment le l'es-tu ? » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulut se justifier et dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendit de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à demi-mort. » Par hasard, un sacrificateur descendait par le même chemin, il vit cet homme et passa outre. Un lévite arriva de même à cet endroit, il le vit et passa outre. Mais un samaritain qui voyageait arriva près de lui, le vit et eut compassion de lui. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le plaça sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit deux deniers, les donna à l'hôtelier et dit « Prends soin de lui et ce que tu dépenseras en plus, je te le payerai moi-même à mon retour. » Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands ? Il répondit « C'est celui qui a exercé de la miséricorde envers lui. » Et Jésus lui dit, « Va, et toi, fais de même. » Jusqu'ici, notre lecture. Lors de notre culte de rentrée, nous avons évoqué des verbes difficiles, voire très difficiles à conjuguer. Et pourtant, la plupart de ces verbes, si vous vous rappelez, pour ceux qui étaient là, étaient des verbes de premier groupe. Ils sont normalement faciles à conjuguer, sauf lorsqu'il s'agit bien sûr de les conjuguer dans notre vie au quotidien, de les vivre, de les traduire par des actes concrets. Et parmi ces verbes évoqués, il y a le verbe « aimer », un verbe visiblement difficile à conjuguer dans nos relations avec les autres, surtout avec ces personnes qui ne font pas vraiment grand-chose pour être aimées, mais plutôt le contraire, qui font tout pour ne pas être aimé. Et pourtant, aimer est un verbe que tous ceux qui veulent plaire au Seigneur doivent apprendre à conjuguer. Doivent apprendre à conjuguer horizontalement dans leurs relations avec leurs semblables et aussi verticalement dans leurs relations avec Dieu. Cette leçon de conjugaison, me semble-t-il, a été bien comprise par le docteur de la loi qui vient interroger Jésus. Mais ce qui lui posait problème, lui, c'est plutôt la définition de son semblable, de son prochain. Et Jésus saisit cette occasion pour délivrer une parabole qui deviendra par la suite l'une des paraboles les plus connues dans l'Évangile, surtout parmi les non-croyants. Et donc c'est la parabole du bon samaritain que nous venons de lire ensemble. Dans cette parabole, Jésus va démontrer à ce docteur de la loi que pour aimer, comme le Seigneur le veut, il faut être au bénéfice de l'expérience de la grâce de Dieu, comme le brigand de cette parabole a été au bénéfice de la miséricorde du bon samaritain. C'est donc par cette parabole que Jésus va délivrer l'un des enseignements les plus fondamentaux pour la foi chrétienne, à savoir aimer Dieu et aimer le prochain. Dans ce texte, nous avons deux échanges entre Jésus et ce docteur de la loi qui se distingue très nettement. Chacun de ces deux échanges est composé de deux questions et de deux réponses. Dans le premier échange, dans les versets 25 à 28, le docteur de la loi pose une question et donne aussi une réponse. Jésus fait de même, pose une question et donne une réponse. Et dans le deuxième échange, dans les versets 29 à 37, le docteur de la loi fait pareil, pose une question et donne une réponse. Jésus fera pareil, posera une question et donnera une réponse. La première interrogation de ce docteur de la loi porte sur l'héritage de la vie éternelle. « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» dit à Jésus. Cette question ne sort pas de la bouche de n'importe qui. C'est un docteur de la loi qui la pose, qui la formule. Un homme qui passe son temps à étudier, à méditer, voire même à enseigner cette parole de Dieu, la loi de Dieu, l'Ancien Testament. C'est un homme qui a l'habitude de dire aux autres ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et maintenant, donc, c'est un homme qui fait partie de ces initiés, de ces détenteurs, en quelque sorte, entre guillemets, du vrai sens de la parole de Dieu. Le voilà maintenant poser une question à Jésus. Et en posant cette question, il veut montrer, visiblement, par là, qu'il est aussi prêt à écouter, prêt à apprendre, et pourquoi pas même à dialoguer. Avec cette question, ce docteur de la loi adopte une attitude, probablement, qui ressemblerait en tous les cas à une attitude d'un enfant. Un enfant qui vient auprès du maître pour être enseigné, éclairé et orienté. Et donc il se leva en signe de respect et il appela Jésus maître, son maître. Cela montre donc cette attitude d'un enfant. Cette attitude d'un enfant, de s'approcher de son maître, peut être motivée. Cette attitude de ce docteur de la loi, s'il est dans cet esprit-là, peut être motivée juste par la prière de Jésus dans les versets précédents, là où Jésus rend grâce à Dieu, au Père, d'avoir révélé les richesses, d'avoir révélé les secrets du royaume aux petits-enfants et de les avoir cachés aux intelligents et aux sages de ce monde. Probablement, le docteur de la loi veut se faire passer pour un enfant. Comment comprendre l'attitude de ce docteur? Est-elle vraiment celle d'un enfant qui veut apprendre ou plutôt celle d'un loup déguisé pour piéger le maître? Fort heureusement, Luc nous donne un petit commentaire, mais combien précieux pour une juste interprétation de l'attitude de ce docteur de la loi. Luc, il nous dit au verset 25, il vient pour le mettre à l'épreuve ou pour le piéger. Pour Luc, ce docteur de la loi est loin d'être dans des bonnes intentions ou dans des bonnes dispositions pour apprendre. Il pose sa question tout simplement pour mettre à l'épreuve Jésus. Au-delà de cette attitude peu recommandable, surtout lorsqu'on reconnaît qu'on s'approche d'un maître, la question du docteur de la loi révèle une mauvaise compréhension de l'héritage de Dieu. Dans la tradition de l'Ancien Testament, l'héritage, c'est-à-dire la vie éternelle, l'héritage fait allusion souvent à la vie éternelle, et en plus, en disant que faut-il faire pour avoir la vie éternelle, l'héritage de Dieu, pour dire, en disant que faut-il faire pour avoir cet héritage, le docteur de la loi dit aussi que la vie éternelle, finalement, dépend de ce qu'on va faire et de ce qu'on ne va pas faire. C'est une manière de dire que la question de la vie éternelle, l'héritage dans l'Ancien Testament, donc le docteur de la loi, dit finalement l'héritage de la vie éternelle dépend du faire ou de ne pas faire. Or, l'héritage dans l'Ancien Testament, tout au long de l'Ancien Testament, était un don de Dieu. Ce n'était pas une question de faire ou de ne pas faire, mais c'était un don de Dieu. C'est le cas, par exemple, d'Abraham. Abraham, il a hérité de la promesse avant d'avoir fait quoi que ce soit. C'est Dieu qui lui a fait la promesse, et c'est l'engagement, et c'est Dieu qui a tenu cet engagement et qui a réalisé cette promesse. C'est l'enseignement que l'apôtre Paul rappelle dans Romains 4, pour ceux qui étaient à l'étude biblique. Nous avons bien discuté de cette promesse que Dieu a faite. Bon, pour les autres qui sont disponibles, ils pourront aussi se joindre à nous, ils seront les bienvenus. Je ferme la parenthèse. L'héritage évoque donc dans l'Ancien Testament, évoque dans l'esprit des Juifs de l'époque de Jésus, une terre, la terre du Canaan. Et cette terre aussi, elle leur a été donnée gratuitement par Dieu pour le peuple. Elle a été promise même à Abraham avant que même le peuple voie le jour. Donc là aussi, le don de Dieu, c'est une promesse. La promesse, l'héritage, c'est un don de Dieu. C'est Dieu qui s'est engagé à chaque fois d'accomplir sa promesse et de l'accomplir parfois malgré même l'attitude de son peuple qui n'a pas toujours été vraiment efficace et louable. L'héritage dans l'Ancien Testament, l'héritage de Dieu n'est pas une affaire de faire, y compris dans l'Ancien Testament, ou de ne pas faire, mais c'est un don gratuit de Dieu. Ce qui accentue la mauvaise compréhension de ce docteur de la loi au sujet de l'héritage de Dieu, c'est le fait de conjuguer le verbe « faire » à un temps qui exprime une action ponctuelle. C'est-à-dire, pour lui, il y aurait un acte particulier à faire une fois pour toutes, ou bien une performance spirituelle à atteindre une fois pour toutes, et c'est bon, on a l'héritage de la vie éternelle, on l'a en poche. Voilà ce qui accentue davantage la mauvaise compréhension de ce docteur de la loi au sujet de l'héritage de Dieu, de la vie éternelle que Dieu donne. Donc ce docteur de la loi pense que la vie éternelle dépend de ce qu'on peut faire ou de ce qu'on ne peut pas faire. Et vous savez, nous pouvons, dans notre monde, beaucoup de personnes autour de nous pensent aussi que la vie éternelle, que gagner la vie éternelle dépend de ce qu'on peut faire ou de ce qu'on ne peut pas faire, dépend de notre performance religieuse. Bon, dans certaines religions, bien sûr, non, pas normal, c'est pas dans l'évangile, mais dans d'autres religions où il s'agit de prier par exemple 5 fois par jour, de jeûner un mois dans l'année, etc., ou de faire des dons, de faire des offrandes, de faire du pèlerinage. Voilà, remplir une série d'exigences, de pratiques spirituelles ou de pratiques religieuses pourrait assurer la vie éternelle. Mais d'une manière un peu plus proche de nous, parfois aussi, autant chrétien, nous tombons un peu dans ce piège de considérer que parce que nous avons une vie spirituelle bien intense, bien engagée, ce qui est une très bonne chose, il faut continuer sur cette voie-là, mais le risque, c'est de penser que finalement, par notre engagement, nous méritons quelque chose en retour de la part du Seigneur. Or, ce que nous avons vu tout au long de cette première partie du culte, c'est tout le contraire. C'est Dieu qui est venu, qui nous a manifesté sa grâce gratuitement alors que nous étions encore pécheurs et nous étions très 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 loin. Donc la vie éternelle n'est pas, ne le comprenons pas en tous les cas de la même manière que ce docteur de la loi, l'héritage de la vie éternelle. Donc c'est cette mentalité-là de mérite qui a animé ce docteur de la loi. Il veut mériter la vie éternelle, l'héritage de la vie éternelle. Jésus, de bon juif qu'il est, répond à ce docteur de la loi par une question. Qu'est-il écrit dans la loi? Comment le lis-tu? Avec cette question, Jésus renvoie le docteur, ce docteur de la loi, à sa propre profession, à ce qu'il maîtrise peut-être le mieux, à ce qu'il sait de plus, la loi. Il le renvoie à la loi, à sa propre loi. Le docteur de la loi qui pensait piéger Jésus et le coincer publiquement se retrouve maintenant à son tour coincé devant cette réponse de Jésus qui n'est autre qu'une question. Lui qui ne cherchait pas un vrai dialogue avec Jésus se trouve maintenant contraint d'accepter un vrai dialogue, le dialogue que Jésus lui impose d'une certaine manière. Contrairement à lui, Jésus va chercher à amorcer un vrai dialogue, un dialogue sur le fond de la question posée par ce docteur de la loi. Car Jésus ne cherche pas à, ne considère pas ce docteur de la loi comme un adversaire à abattre ou à écraser à force d'arguments. Mais non, il voit en lui un interlocuteur éventuellement à conduire, à orienter vers la vérité. Et pour cela, Jésus va mettre tout en œuvre pour permettre à ce docteur de la loi d'être sur une bonne piste, une piste qui permettra un vrai dialogue entre les deux hommes. L'orientation de Jésus portera ses fruits puisque ce docteur de la loi lui-même arrivera à donner une réponse, et une réponse que Jésus qualifiera de bonne. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. D'où ce docteur de la loi sort cette réponse, puisqu'elle ne se trouve jamais dans l'Ancien Testament comme telle. En fait, cette réponse regroupe trois textes dans l'Ancien Testament. Le premier texte est Deutéronome, chapitre 6, les versets 4 à 5, le plus connu. Écoute Israël, le Seigneur est un, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Le deuxième texte est le Lévitique 19, verset 18. Tu ne vengeras pas, tu ne garderas pas de rancune envers les gens de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis le Seigneur. Et le dernier texte, c'est le Lévitique 18, verset 5. Vous observerez mes prescriptions et mes règles. Celui qui les mettra en pratique vivra. Pareil, je suis le Seigneur. La synthèse de Deutéronome 6 et Lévitique 19, c'est-à-dire aimer le Seigneur et aimer le prochain, donne un commandement, donc donne ce commandement sur l'amour du prochain et l'amour du Seigneur. Et le Lévitique 18, le dernier texte que je vous ai cité, là, montre que le respect de cette loi peut donner... Donc peut conduire à la vie éternelle. La question qui se pose maintenant, c'est de savoir comment ce docteur de la loi a appris, comment ce docteur de la loi a pris ces trois passages de l'Ancien Testament et comment il les a réunis tout seul pour former finalement le plus grand commandement en lien avec la vie éternelle. En fait, le premier à faire cette synthèse n'est pas vraiment ce docteur de la loi, mais c'est Jésus lui-même. C'est Jésus qui est le premier à faire cette synthèse. Et pour cela, il y a deux arguments. Le premier, c'est déjà dans notre texte. Lorsque Jésus dit à ce maître de la loi ou à ce docteur de la loi, qu'est-il écrit dans la loi, comment le l'es-tu ? La deuxième partie, comment le l'es-tu ? Peut en fait sous-entendre, Jésus sous-entend par cela, comment le récites-tu dans ton culte quotidien ? Et on sait que les Juifs, dans leur culte quotidien, récitaient la confession de foi, le matin et le soir, qu'ils appellent la confession de Shema, donc écoute, écoute Israël, c'est le Deutéronome 6, les versets 4 à 5. Mais un autre argument qui plaide, qui dit clairement que c'est Jésus qui est le premier à faire la synthèse entre ces deux commandements, c'est, on le retrouve dans les évangiles, dans les textes parallèles, dans l'évangile chez Marc et Matthieu. Dans l'évangile de Matthieu et Marc, aussi bien Matthieu que Marc, attribuent cette association des deux commandements à Jésus lui-même. Dans Matthieu, c'est un pharisien qui vient voir Jésus pour lui demander quel est le plus grand commandement. Et dans l'évangile de Marc, c'est un scribe qui vient demander à Jésus quel est le premier commandement. Aussi bien pour l'un que pour l'autre, Jésus répondra, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. Donc là, c'est vraiment Jésus qui donne cette association, c'est Jésus qui donne ce commandement et non pas le maître de la loi. Mais comment donc comprendre ici ces paroles attribuées par les deux autres évangélistes à Jésus se retrouvent sur la bouche du docteur de la loi? En fait, dans notre texte, Luc ne rapporte pas tout le cheminement par lequel Jésus a fait passer ce docteur de la loi pour parvenir à cette conclusion. Ce qui montre que Jésus a vraiment engagé un vrai dialogue avec son interlocuteur. Il ne voulait pas le piéger. Il l'a fait venir, il l'a fait passer par tout un parcours pour arriver à cette conclusion. Et Luc souligne seulement que ce docteur de la loi a fini par arriver à cette conclusion, à la même conclusion, à la conclusion qui a été à la synthèse, qui a été déjà faite auparavant par Jésus lui-même au sujet de ces deux commandements, aimer Dieu et aimer le prochain. Donc Jésus est le premier à faire cette synthèse, et Jésus dira que cette synthèse, ce résumé, aimer Dieu et aimer le prochain, résume la totalité de la loi et des prophètes. Donc c'est ce double commandement qui résume la loi et les prophètes, aimer Dieu, aimer le prochain. Dans l'amour pour Dieu, c'est l'être humain dans sa totalité qui est unifié, concerné, qui est mis en mouvement dans cet amour qu'il est appelé à manifester vers Dieu. C'est un amour qui englobe le cœur, le corps, l'âme, l'intelligence. C'est une manière de dire, c'est tout l'être, l'être tout entier, dans sa totalité, si dans sa totalité rien n'est laissé à côté, mais tout est impliqué dans cet amour pour le Seigneur. Et dans l'amour pour le prochain, l'amour pour le prochain, c'est la personne qui est appelée à manifester un amour qu'elle éprouve pour elle-même, donc un amour tout naturellement. C'est vrai que parfois, nous rencontrons certaines difficultés à nous aimer nous-mêmes, mais ça, c'est suite à des difficultés. Mais en règle générale, quand même, nous aimons quand même un petit peu. Et donc, il nous est demandé d'exprimer ce même amour envers l'autre. Aimer Dieu et aimer le prochain, voilà une réponse satisfaisante de la part du docteur de la loi. Après donc ce cheminement théologique important, ce docteur de la loi parvient à la bonne réponse. Et si Jésus lui faisait passer un examen de théologie, il aurait probablement un 10 sur 10. Et voyons donc qu'il a bien saisi, qu'il a bien compris sa leçon, qu'il a bien compris le message. Jésus lui dit, fais ça et tu vivras. Par là donc Jésus répond cette fois-ci à la question que le docteur de la loi avait posé au verset 25, à savoir, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, aimez le Seigneur et aimez le prochain, voilà ce qu'il faut faire pour hériter la vie éternelle. Jésus invite maintenant ce spécialiste de la loi à mettre en pratique les conclusions auxquelles il est parvenu. Il l'invite à accomplir, à vivre l'amour de Dieu et l'amour du prochain. En effet, il ne se fait pas de savoir des choses, il ne se fait pas de savoir ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, mais il faut laisser cette exigence de la parole de Dieu se traduire concrètement dans notre vie quotidienne. Il ne se fait pas de savoir qu'il faut aimer, mais il faut apprendre à conjuguer ce fameux verbe verticalement et horizontalement. Parfois, le décalage entre notre bonne théologie et notre mauvaise pratique peut être grand. Et souvent, c'est l'une des sources de nos frustrations, de nos tristesses, lorsque nous nous rendons compte que nous ne sommes pas vraiment conséquents dans notre vie quotidienne ou dans une situation ou une autre. Nous ne sommes pas tout à fait conséquents avec ce que nous pensons être bon et vrai, ce que nous pensons être sur le cœur de Dieu. Cela engendre souvent des tristesses et cela nous prive aussi de la joie dans notre foi. Mais le Seigneur est toujours bon, comme nous l'avons lu. Chaque fois que nous revenons vers lui, le Seigneur nous accorde un accueil favorable et il nous relève, il nous remet à nouveau sur son chemin, en nous accordant sa joie. Tout comme donc pour ce docteur de la loi, Jésus nous invite à joindre l'action à notre réflexion et ne pas laisser notre savoir biblique sans apporter des fruits dans notre vie au quotidien, dans notre vie de chaque jour. La discussion entre le docteur de la loi et Jésus aurait pu s'arrêter à ce moment-là. La leçon, visiblement, est bien apprise. Et la question est résolue. La question posée au début, Jésus a apporté une bonne réponse. Seulement, ce docteur de la loi ne l'entend pas de cette oreille. Il veut se justifier. Il pose une deuxième question à Jésus. Qui est mon prochain ? Luc prend le temps de préciser que ce docteur de la loi veut se justifier. Comment comprendre cette expression « veut se justifier » ? Pouvons la comprendre en fait de deux manières. La première manière, et qui est très répandue, c'est de dire que ce docteur de la loi avait tout simplement été un peu embarrassé, été dans l'embarras de se retrouver dans une situation où Jésus finalement l'a conduit lui-même à donner la réponse à sa propre question, et du coup il ne veut pas perdre la face et il veut rendre un peu la monnaie, enfin la monnaie de il veut rendre à Jésus la monnaie de sa pièce. Et dans ce cas-là, ce docteur de la loi, il pose encore une deuxième question en disant à Jésus, mais qui est mon prochain ? Mais la deuxième manière de comprendre, il veut se justifier, c'est de dire que ce docteur de la loi veut aller au bout, jusqu'au bout, dans sa discussion avec Jésus. Il veut y aller jusqu'au bout dans sa compréhension de la loi de Dieu. D'autant plus qu'il a un maître de la loi qui est bien, qui enseigne avec clarté, donc il veut y aller jusqu'au bout. Maintenant qu'il est parvenu à la bonne réponse, il veut savoir l'identité du prochain pour l'aimer et de pouvoir, de cette manière, rentrer chez lui le soir avec le sentiment d'avoir accompli ce devoir d'aimer le prochain en bonne conscience. Il est vrai que la question de la définition du prochain était très débattue dans les milieux religieux du temps de Jésus. Par exemple, la communauté de Qumran n'appelait prochain que les membres de la communauté. Tous ceux qui ne font pas partie de leur communauté, y compris les juifs, ne sont pas appelés des prochains, sont considérés comme des ennemis. À l'opposé, il y avait aussi d'autres cercles religieux. Il y a d'autres cercles religieux au temps de Jésus qui vont jusqu'à considérer prochains même les païens, les prosélytes, c'est-à-dire les païens qui se sont convertis au judaïsme. Pour eux, le prochain, c'est d'abord le juif pieux, comme le prêtre ou le scribe, ensuite le juif qui pratique la loi, et enfin l'étranger qui se convertit au judaïsme. Donc, ou bien qui craint Dieu. Ils vont jusqu'à cette limite pour appeler ces personnes-là prochains. Mais au-delà de cette limite, ils sont considérés, les païens qui ne craignent pas Dieu, qui ne sont pas prosélytes, sont considérés comme les ennemis de Dieu, donc des ennemis de ces juifs pieux. Donc il ne serait pas impossible qu'ici, ce docteur de la loi, finalement, a bien senti que toutes les définitions qu'il a pu obtenir jusqu'ici, ici ou là, il clochait un peu. Il les trouvait peut-être trop vastes, trop étroites, peut-être trop vagues, trop restreintes, peut-être trop larges, ou encore trop précises, trop idéales, ou trop concrètes. Voilà, donc il n'est pas satisfait de toutes ces définitions. Aucune de ces définitions ne pouvait lui dire « celui-ci est ton prochain, celui-là ne l'est pas ». Il veut donc maintenant saisir l'occasion, puisqu'il a Jésus devant lui, de lui demander, de lui définir le prochain. Donc, peut-être le docteur de la loi cherche une définition sécurisante du prochain. C'est possible. En tout cas, tout est à son honneur que de chercher à préciser sa définition du prochain, surtout quand on a affaire à un maître comme Jésus. Mais une chose quand même intrigue dans sa question, dans son interrogation. Comment se fait-il qu'il ait laissé de côté la plus grande partie du commandement pour s'intéresser uniquement à la dernière partie et à un petit bout de la dernière partie, à la définition de prochain? Peut-être il considère qu'aimer Dieu de tout son cœur, etc., ça, il n'y a pas de problème, il peut le faire. Et dès qu'il s'agit d'un acte religieux, il sait déjà qu'il fallait le faire. Peut-être. Et du coup, c'est le prochain qui lui posait problème. C'est le prochain, c'est du côté de prochain que les choses se corsent et que les relations on sent un peu difficile. C'est vrai que c'est vraiment très difficile d'avoir des problèmes dans sa relation avec Dieu. Chaque fois qu'on a un problème avec notre relation avec Dieu, souvent, c'est souvent parce que, voilà, c'est pas Dieu qui va nous décevoir, je crois. J'ai pas connu, j'ai pas rencontré quelqu'un qui m'a dit que Dieu m'a déçu. Mais au sens fort du terme, hein, bon, il arrive toujours qu'on reçoit pas une réponse de la part du Seigneur au moment voulu, ou il arrive qu'on passe une expérience qui n'est pas vraiment très heureuse, mais voilà, qui nous fait mal et tout. Mais je crois pas qu'on puisse dire que dans notre relation avec le Seigneur, on est tellement déçu par Dieu et que le problème se poserait de nouveau de Dieu. Peut-être ce docteur de la loi est-il simplement en train de se dire, voilà, du côté de Dieu, je sais que je rencontrerai aucun problème, mais plutôt du côté du prochain que je risque d'avoir des problèmes dans mes relations avec mon vis-à-vis. Et du coup, il veut savoir à quoi s'en tenir. Avant de répondre à cette question sur le prochain, Jésus donc va raconter une parabole. Il va raconter une parabole où il va faire comprendre que seule l'expérience de la miséricorde de Dieu peut permettre à un être humain d'aimer Dieu et d'aimer le prochain. Un grand théologien a écrit « Quand on ignore qui est son prochain, on prouve par là que même on ignore la miséricorde divine. » Jésus raconte dans les versets 30 à 35 qu'un homme descend de Jérusalem à Jéricho. Et sur ce chemin, cet homme fait une mauvaise rencontre et finit par se retrouver demi-mort au bord du chemin. Jésus ne donne aucune indication sur cet homme, ni son identité, ni sa religion, ni sa ville, ni aucun autre indice, sinon en le qualifiant un certain homme. Un certain homme, on ne sait pas donc s'il est juif pieux, s'il est juif pratiquant la loi, ou encore s'il est un prosélyte, ou tout simplement un païen, un ennemi de Dieu. On ne sait rien. La seule chose qu'on sait, la seule chose qui nous permet de nous identifier à lui, c'est que cet homme est un être humain, un certain homme, c'est son humanité. C'est l'appartenance à une seule humanité qui déterminera en effet l'action qu'on peut entreprendre à son égard. Ni la religion, ni la race, ni aucune autre identification ne peut entrer en ligne de compte dans la manière de considérer cet homme. Plus encore, on ne peut rien espérer en retour de cet homme, puisqu'il est à demi-mort, il a tout perdu. Les brigands lui ont déjà tout pris. Rien n'est dit sur sa situation sociale, financière. S'il était riche, on aurait pu penser que certains lui viendraient en aide, tout simplement parce qu'après, il demanderait, enfin en tout cas, il espérerait en retour un renvoi de l'ascenseur. Mais là, rien ne nous est dit non plus sur sa situation professionnelle et sociale. Voilà, donc seule l'humanité de cet homme peut nous aider à nous identifier ou à ne pas nous identifier à lui. Voici trois personnages qui passent sur ce chemin. Le premier n'est autre qu'un prêtre, mais sans faire quoi que ce soit pour cet homme abandonné au bord du chemin. Au contraire, Luc précise qu'il est passé outre. On pourrait se demander pourquoi ce prêtre, cet homme religieux, un homme censé accompagner le peuple, en particulier les faibles. Et ça a été dit dans la loi. Les faibles et les nécessiteux. Comment se fait-il qu'il n'est pas venu en aide à cet homme, à ce pauvre malheureux laissé au bord sur le fossé? Le texte ne dit rien et Jésus ne nous donne pas de réponse. C'est, au contraire, c'est rester ouvert. L'une des raisons, si on veut essayer de comprendre l'attitude de ce prêtre, l'une des raisons qui peut justifier ce comportement, c'est que ce prêtre, il ne peut pas en effet s'approcher ou toucher à mort. Puisqu'il est dit dans le texte, il est à moitié mort, et un peu plus loin dans le texte, il dit où il évoque le sang de cet homme qui est frappé. Et le prêtre, en effet, il ne peut pas se souiller pour toucher le mort. Ça lui a été interdit, c'est Lévitique 21, ça lui a été interdit par la loi. Sauf pour des cas précis, comme quelqu'un de très proche, un proche, ou etc. Mais c'est vraiment, ce sont des exceptions. Mais en règle générale, il n'a pas le droit de s'approcher des morts. Mais ceci dit, la fin du texte ne loue pas non plus l'attitude de ce prêtre. C'est pas l'attitude de ce prêtre, c'est pas ce prêtre qui ressort un peu le héros de l'histoire. La deuxième personne à passer par là, c'est un lévite. Et là, il ne fait pas mieux que le prêtre, il vit l'homme au bord du chemin et il passe à outre et il poursuit son chemin. C'est pour le prêtre, on peut évoquer cette loi dans l'Ancien Testament qui l'empêche de toucher les morts. Pour les lévites, franchement, on aura du mal à justifier cette attitude. La différence entre un prêtre et un lévite, c'est que tous les deux, bien sûr, issus de la tribu des lévites. Lévi, c'est le fils de Jacob, qui est devenu donc l'une des 12 tribus d'Israël. Et dans cette tribu, vous avez les prêtres, ceux qui sont consacrés, les fils en particulier d'Aaron, ceux qui descendent d'Aaron, qui sont consacrés pour offrir des sacrifices. Alors que les lévites, le reste des lévites, sont là pour accomplir les actes de culte, c'est-à-dire pour travailler aussi pour faire tous les actes cultuels à côté, mais pas pour offrir les sacrifices, seuls les prêtres pouvaient offrir les sacrifices. Voilà un peu la petite distinction entre les deux. C'est pour cela que pour le prêtre, on pourrait comprendre le fait qu'il ne s'approche pas de la mort, mais pour le lévite, là, on a du mal à comprendre. Du coup, les religieux, il me semble, ou ceux qui se considèrent du moins justes, qui peut s'identifier à ce lévite ou au prêtre dans l'éditoire de Jésus, doivent se sentir quand même une pique. Ils doivent se sentir une pique à leur rencontre. Ils doivent se dire, là, ce prédicateur est en train de nous viser. Quant à ceux qui sont contre les religieux, ils doivent, me semble-t-il, jubiler en disant, oui, ces hommes religieux, finalement, ne font pas grand-chose. C'est toujours comme ça qu'ils agissent, c'est toujours comme ça qu'ils font. Tant pis pour eux, le fait d'avoir cette sentence, le fait que ce prédicateur parle de cette manière d'eux. Et donc ces gens peuvent donc se sentir un peu compris par Jésus, par le prédicateur Jésus. Enfin arrive la troisième personne, un Samaritain. Un Samaritain, c'est une surprise totale, et cette fois-ci pour tout le monde, qu'on soit pour ou contre les religieux, c'est une surprise pour tout le monde, car la plupart ne s'attendaient pas du tout à l'arrivée d'un Samaritain. On s'attendrait plutôt à l'arrivée d'un laïc. Après les prêtres, les lévites, il y a toujours un juif pieux, un laïc. Souvent, on peut trouver cette triade dans l'Ancien Testament. Mais là, ce n'est pas un juif laïc qui vient jouer le rôle de héros, mais plutôt un Samaritain. Le Samaritain, l'ennemi mortel des Juifs, métis méprisé, et il devient maintenant un agent de compassion. Donc, si l'évocation des religieux piquait uniquement ce qui s'est considéré comme juste, là, l'évocation de Samaritain, c'est tout l'auditoire de Jésus, composé principalement de Juifs, qui a du mal, me semble-t-il, à suivre Jésus dans son raisonnement. C'est au Samaritain que vient la compassion, c'est du Samaritain, pardon, que vient la compassion, le secours, l'aide dont cet homme a besoin. Donc, contrairement aux prêtres et aux lévites, le Samaritain a vu et fut pris de pitié ou de compassion à l'égard de cet homme. Contrairement donc aux prêtres et aux lévites, le Samaritain ne passa pas outre, mais au contraire, il s'est approché de lui pour lui apporter son secours. Donc là où le prêtre ignore, là où le scribe continue à discuter, le cœur simple et droit voit clair du premier écho, et le Samaritain va directement s'approcher de cet homme et lui apporter le secours. Les verbes employés pour décrire les soins apportés par ce Samaritain sont nombreux et ils sont remarquables. Il dit qu'il s'est approché, contrairement aux autres qui se sont enfuis. Il dit qu'il a bandé ses blessures, et il l'a placé sur sa monture, il l'a conduit dans une hôtellerie, et puis il a pris soin de lui. En plus de cela, il a payé les frais d'hospitalisation. Donc toutes ces précisions-là expriment un sentiment de la plus tendre compassion de ce Samaritain à l'égard de cet homme abandonné. Aucun juif n'aurait voulu être secouru par un Samaritain. Même pas peut-être cet homme à moitié mort, abandonné au bord du chemin. Mais pour cet homme, il ne peut rien faire. Il est incapable d'exprimer son refus et encore moins de manifester sa résistance. Il doit se laisser faire. C'est cet homme déshérité qui n'a plus rien qui devient maintenant l'objet de la compassion du Samaritain. Et c'est ainsi que ce Samaritain s'est fait le prochain de cet homme. Après avoir raconté cette parabole, Jésus répond à la question du docteur posée au docteur de la loi posée au verset 29, qui est mon prochain. Et il le fait comme un bon juif toujours, en posant une autre question. Lequel de ces trois semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? En d'autres termes, Jésus dit à ce docteur de la loi, « Si tu étais à la place de cet homme abandonné au bord du chemin, lequel de ces trois hommes aimerais-tu, de quel de ces trois hommes aimerais-tu être traité ?» Souvent dans cette histoire, nous mettons l'accent sur le bon Samaritain, l'exemple à suivre qui est le bon Samaritain, ce qu'il faut faire. Or, un Samaritain, prendre un exemple pour les Juifs, prendre le Samaritain pour un exemple, franchement, ça ne respecte pas du tout le contexte de l'époque. Il me semble que les projecteurs, ils voudraient le mettre plutôt sur la personne, la victime, qui a été au bénéfice, et non pas sur le comportement du bon Samaritain, qui est un bon comportement d'ailleurs. Mais c'était sur la personne qui est victime, c'est sur cette personne-là qu'il faudrait porter le regard. Et là, Jésus, lorsqu'il répond à ce docteur de la loi, il ne lui dit pas « mets-toi à la place du Samaritain », il lui dit « en gros, ce qu'il laisse entendre, si tu étais à la place de cet homme abandonné au bord du chemin, de quel homme, de quel de ces trois hommes aimerais-tu être traité ? » À vrai dire, il n'a pas vraiment le choix, ce bon docteur de la loi. Car soit choisir le prêtre et le lévite, et dans ce cas-là, c'est l'abandon et la mort, soit choisir le Samaritain, et là, il aura la vie sauve. Donc le calcul est vite fait, le docteur de la loi comme pour n'importe quel être humain, me semble-t-il, préfère être au bénéfice de la miséricorde, même si celle-ci vient de la part d'un étranger, voire d'un ennemi. D'ailleurs, le docteur de la loi ne précise pas, il ne dit pas de la part du Samaritain, il dit de la part de celui qui a manifesté la miséricorde. Il avait du mal à exprimer, à nommer le nom de Samaritain. Donc, comme pour le premier dialogue, Jésus maintenant conduit aussi ce docteur de la loi dans un cheminement où il parvient lui-même à répondre à sa propre question, c'est celui qui a exercé la miséricorde envers l'homme abandonné. Le docteur de la loi n'ose, voilà comme je disais, n'ose même pas prononcer son nom. Le docteur de la loi comprend aussi que cet homme abandonné peut à son tour aimer Dieu de tout son cœur, de tout son être, et aimer le prochain comme lui-même, car il a tout, car il a été au bénéfice de cet amour gratuit, de cette grâce imméritée. Cette parabole en effet révèle qu'il est impossible de soi-même d'aimer de cette façon, c'est-à-dire d'aimer Dieu comme il le demande, de tout son cœur, de tout son être, et d'aimer son prochain comme soi-même, sauf si nous expérimentons d'abord cet amour de Dieu, ou si nous vivons d'abord, si nous sommes d'abord été au bénéfice de cet amour. Il faut faire donc l'expérience de la grâce radicale de Dieu. Seulement après cela que nous pouvons être capables d'aimer comme Dieu le demande et d'agir envers les autres comme on aimerait que quelqu'un d'autre agisse à notre égard. C'est pourquoi Jésus invite le docteur de la loi à se laisser faire au lieu de faire, à expérimenter la grâce insondable de Dieu s'il veut vraiment aimer Dieu et aimer son prochain. Jésus invite ce docteur de la loi à laisser l'amour de Dieu le saisir et à recevoir l'amour du prochain s'il veut à son tour aimer Dieu et aimer le prochain. Finalement, hériter la vie éternelle n'est pas une affaire de faire quelque chose ou de ne pas faire quelque chose, mais c'est une question d'expérience de la miséricorde insondable de Dieu. Et vu que le docteur de la loi a bien saisi visiblement ce message, ce deuxième message de Jésus, maintenant Jésus l'invite à le vivre, va et fais de même. Cette belle leçon ne doit pas rester au niveau du savoir, mais elle doit être expérimentée. L'expérience de la miséricorde de Dieu, de l'amour de Dieu, est capitale dans notre vie chrétienne. Nous ne pouvons pas prétendre pouvoir aimer Dieu, aimer le prochain, si nous-mêmes, nous n'avons pas été au bénéfice de cette expérience. Grandir dans une famille chrétienne, dans un milieu religieux, dans une église, est un immense privilège, me semble-t-il. Je n'ai pas eu ce privilège, mais c'est un immense privilège pour ceux qui l'ont eu. Mais je dois dire aussi que ce privilège ne remplacera jamais, 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 au grand jamais, l'expérience personnelle, individuelle de l'amour de Dieu que nous nous faisons lors de la conversion. À la conversion, nous prenons conscience que Jésus est venu nous apporter le secours, le salut dont nous avons besoin. Alors que nous étions encore morts dans nos péchés, comme le texte d'Éphésiens 2 ce matin nous le rappelle. Jésus s'est fait notre prochain lorsqu'il est venu sur la croix. Il a payé le prix de notre désobéissance et il nous a exprimé ainsi un amour dépassant toute limite, un amour sans fin. Étant au bénéfice de cet amour de Jésus, nous apprenons jour après jour maintenant à aimer Dieu et à aimer le prochain avec le soutien de son esprit. Quelqu'un qui n'a pas expérimenté l'amour de Dieu ignorera toujours qui est, comment aimer son prochain et qui est son prochain. C'est une fois que nous avons vu que Dieu s'est fait notre prochain, en nous manifestant sa grâce, alors que nous étions encore pécheurs, que nous pouvons à notre tour nous faire le prochain des autres en leur manifestant notre compassion et en leur prodiguant nos soins. Que personne donc ce matin ne se prive de cet amour de Dieu, de cette expérience radicale de la grâce de Dieu, et que le Seigneur fasse de nous des prochains pour plusieurs personnes qui seront placées sur notre chemin au cours de cette semaine. Amen.